Et vous étiez bien ancré dans cette démarche philosophique?
J'ai reçu l'enseignement, mais en fait, des fois, c'est très difficile d'y aller dans cette démarche. Il faudrait toute une préparation de méditation, voyez, pour vraiment rentrer dans cet ultime. Alors, des fois, c'est très difficile, mais j'étais baignée dedans, quoi.
Il n'y a jamais eu de moment chez vous où il y a eu des doutes ou des révoltes ou des incompréhensions ou un illogisme de la foi, je parlerai de foi puisque c'en est une, de la foi qu'on vous avait non pas imposée mais apportée.
Si quelque part on trouve quand même il y a quelque chose qui n'est pas logique, mais c'est illogique quand on se trouve de l'autre côté de la barrière. Comment vous expliquer cela? Disons, dans mon éducation bouddhique, on disait que si quelqu'un souffre parce qu'il avait fait quelque chose de mal, tant que ce n'est pas vous qui souffrez, cette pensée paraît acceptable. Mais quand c'est vous qui se trouvez de l'autre, qui vous trouvez de l'autre côté de la barrière, à un moment donné, il y a une sorte de révolte. On ne pouvait plus accepter que tous les malheurs qui nous arrivent, c'était quelque chose qu'on avait fait avant sans le savoir.
Donc dans une vie précédente, et vous n'avez pas possibilité de faire justice puisque vous ne savez pas ce que c'est.
Voilà, on n'avait pas possibilité de retourner ou de corriger, mais on peut quand même corriger pour la vie après, c'est-à-dire accepter cette vie, ce qui nous arrive dans cette vie, pour pouvoir avoir une vie meilleure après. C'est la logique du samsara. Je préfère dire ce mot que la réincarnation, parce que la réincarnation est tachée de concepts trop occidentalisés. Le samsara, ça veut dire le cycle des morts et des naissances, qui est comme un cercle vicieux qui entraîne l'homme sans fin. Et le but de tout bouddhiste, c'est de sortir de ce cercle vicieux, c'est de ne plus renaître.
Donc vous étiez clair au Shailun. Je fais exprès. J'ai dit correctement?
Shayun,
Shayun. Shayun, c'est votre prénom en cambodgien?
oui, c'est mon prénom en cambodgien.
Ce qui veut dire?
Qui veut dire lumière de nuage à l'aurore. C'est très poétique, vous voyez.
C'est effectivement très très poétique et bien dans la pensée que nous sommes en train de développer. Donc vous parlez de non pas de révolte mais d'incompréhension à un moment donné qui va arriver d'ailleurs petit à petit cette incompréhension par rapport à la souffrance qui vous arrive. Ce sont les seuls traits qui vous choquent un peu. Sinon dans le bouddhisme en général vous étiez bien dans votre peau, tout allait bien dans votre famille avant qu'il y ait un choc qui transforme votre existence.
Oui, mais comme à l'âge de 22 ans, il y a quand même quelque chose qui n'allait pas, c'était l'injustice sociale. Donc là, c'était toujours notre grand problème en tant que bouddhiste. On n'arrive vraiment pas à accepter cette injustice en disant que c'est quelque chose c'est le karma, c'est le destin. Et il y a l'injustice sociale qui nous révoltait et qu'on ne trouve pas trop comment vous dire, d'explications logiques dans la
solution.
de solution dans notre religion bouddhiste. Et il y a aussi, comment vous dire, l'immobilisme un petit peu de la mentalité. Parce qu'on accepte tout, finalement, on ne se pose pas trop de questions.
Ah, ça, c'est ce qui est apprécié en fait par l'Occident. Les Occidentaux apprécient aussi l'esprit asiatique pour cela, entre autres. Mais comme vous dites, c'est un revers.
C'est un revers de la médaille, en fait.
Ça veut dire que si on ne vous pose pas de questions, on peut tout accepter, même une dictature, si elle est justifiée.
Voilà, c'est ce qui est arrivé au Cambodge.
Alors on va y arriver petit à petit, Claire, ou j'essaye encore Chayoun. J'y suis arrivé, je crois, un peu mieux cette fois-ci.
Ça va, vous avez
Voilà.
très bien prononcé.
Je vais finir, vous allez voir, par avancer un peu. Alors, on parlait donc de cette culture, de cette éducation, puis on arrive à des études. Donc, vous avez un père tout de même qui est notable, qui est d'un haut niveau. Et votre papa vous fait suivre des études de tout de même dans un lycée, dans un collège français. Donc, oui. Vous avez quand même un cycle d'études de haut niveau.
Voilà, ce qui est surprenant pour une fille. D'ailleurs, ce qui m'a permis de survivre dans le camp de Pol Pot, parce qu'on ne soupçonnait pas qu'une femme puisse avoir fait des temps d'études. Ce n'était pas vraiment dans la mentalité khmer.
Alors, des études, vous ferez des études de philosophie. Avant cela, vous allez étudier en français, dans un lycée français.
Oui, au lycée Descartes, à Phnom Penh, qui est très lié avec l'académie de Montpellier.
Un petit peu humoristique, le lycée Descartes.
Voilà.
Presque cela. Donc, vous avez reçu une éducation un petit peu comme les femmes françaises aussi. Et ça, j'aimerais qu'on développe cet aspect. On a parlé de votre éducation philosophique ou religieuse, je parlerais plutôt religieuse, hein, si vous me permettez, et l'éducation culturelle à la française.
Oui, parce que papa était un homme d'affaires. Il faisait beaucoup de voyages, surtout en France. Et il a beaucoup admiré la liberté des femmes françaises. Et il rêvait pour sa fille, que sa fille soit une femme libre, comme des Françaises, et qu'elle ne soit pas toujours sous la protection d'un homme. Alors c'était son idéal, lui, malgré sa conviction bouddhiste, de me donner une éducation qui me permettra de vivre plus tard en femme libre.
Il y avait des confrontations, vous parlez d'éducation bouddhiste pour votre papa, il y avait des confrontations?
Il y avait des confrontations en effet, parce que une femme au Cambodge, dans la religion bouddhiste, la femme est quand même inférieure à l'homme. Donner trop d'éducation à une fille, ça lui donnait des éléments de se révolter contre son mari, peut-être plus tard.
Peut-être préciser, donc la femme dans l'éducation bouddhiste, on pense que c'est une réincarnation inférieure et que le stade supérieur sera l'homme.
Sera l'homme, oui.
On dirait que c'est pas mal ça comme réflexion.
Mais c'est bien.
C'est une boutade. En tout cas, je pense que certains, sans le savoir, ont en tout cas cette réflexion. D'accord, donc pour vous, c'est vrai que c'est pas tout à fait normal en tout cas d'avoir justement une culture ou une éducation supérieure alors que vous êtes considéré comme inférieur d'une certaine manière.
Oui, et aussi il faudrait dire que papa pouvait se permettre, parce qu'il y a certaines familles, elles ont à choisir entre donner l'éducation aux garçons ou aux filles, mais papa n'avait pas de problème, comment vous dire, matériel. Donc, il voulait vraiment que je sois une femme autre que la femme khmer traditionnelle.
Voilà, donc je crois qu'en tout cas, il y a réussi d'une certaine manière, on va se rendre compte au fil de votre histoire. Donc en tout cas, une éducation aisée, il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, il faut dire aussi que vous étiez quand même aussi dans des conditions de vie, au niveau de votre logement, etc., qui est tout de même d'un aussi assez aisé au Cambodge, à l'époque en tout cas.
Oui, bien sûr. Les gens qui ont connu le Cambodge savaient très bien que les notables de Cambodge ne faisaient rien. Nous avons des gens de, comment on appelle ça, de maison.
Voilà. Donc en tout cas, ce serait peut-être plus difficile pour vous de faire la cuisine par la suite. On en parlera. Vous avez passé votre bac français.
Oui, j'ai passé mon bac français, oui.
Et en plus, dans une académie, l'académie de Montpellier. Alors ça, c'est j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu cela, tout de même. Enfin, tout au moins dans un parallèle à l'académie de Montpellier.
Oui, parce que à ce moment-là, le lycée français qui se trouve au Cambodge est un lycée qui est affilié à l'académie de Montpellier. Je ne sais pas pourquoi, là, il faudrait demander à l'ambassadeur de France.
Donc un bac, c'est en 1960, dites-moi un peu en quelle année vous avez passé.
Alors, j'ai passé mon bac, c'est loin tout ça, vous savez, en 1965,
65,
j'ai eu mon baccalauréat.
65. Oui. Et puis, vous poursuivez vos études.
Oui, à ce moment-là, le gouvernement français m'a offert une bourse pour venir faire mes études en France, mais papa ne voulait pas me laisser partir, parce que je voulais faire la médecine. Pour papa, c'était inconcevable que je fasse la médecine parce que je trouverai jamais de mari après. Aucun homme ne voudrait avoir pour femme un médecin.
Alors là, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi aucun homme en Cambodge ne veut pour femme médecin, parce qu'en France, on est fiers.
Oh oui, parce qu'on a pensé qu'en tant que médecin, ben, la femme, elle va toucher de trop près le corps des autres hommes, quoi. Je pense que c'est simplement dans cet esprit-là.
D'accord. Donc de préserver de sa femme et de la garder.
De préserver des choses sales, si vous voulez, entre guillemets, quoi.
D'accord. Donc, enfin, je pense qu'il faut le préciser tout de même. C'est important. Donc, en tout cas, pas pour la médecine.
Non, pas pour la médecine. Il me voyait bien faire le commerce. HEC, ce que rêvait. Faire études commerciales. Ou une juridiste. Le droit, ou les. Voilà.
Oui, économie, droit, effectivement. En tout cas, c'était pas votre. C'est pas ce que vous aviez envie de faire. Vous aviez envie de faire autre chose, vous, Claire. Pourquoi?
Je voulais faire la médecine comme je ne voulais pas le faire, donc j'ai fait la philo, simplement pour faire râler mon père.
Simplement pour faire râler votre papa. Là, vous aviez, je pense que là, il avait réussi à vous donner une éducation à la française d'une certaine manière.
Ah oui, je me rappelle bien ce jour-là, il m'a dit que, mais ma fille, tu es devenue vraiment une française.